Que peuvent donner, que peuvent permettre les négociations qui auront cours demain à Istanbul entre l'Ukraine et la Russie? Une trêve inconditionnelle, immédiate et durable est-elle la condition même de ces négociations? Et quel rôle peut jouer la Turquie dans ce cénacle diplomatique? Pour tenter de répondre à ces questions, trois invités ce soir. Nicolas Tenzer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant à Sciences Po, auteur du blog Tenzer Strategics. Vous avez publié le mois dernier aux éditions de l'Observatoire cet ouvrage intitulé « Fin de la politique des grandes puissances ». À vos côtés, Oksana Mitrofanova, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignante-chercheuse en sciences politiques à l'Université Jean Moulin de Lyon 3, chercheuse senior à l'Institut d'Histoire mondiale d'Académie nationale des sciences d'Ukraine et l'autrice de cet ouvrage intitulé France-Ukraine aux éditions de la Maison des sciences de l'homme qui a paru en français l'année dernière. À vos côtés également, Dorothée Schmid, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable du programme Turquie-Moyen-Orient à l'IFRI et l'autrice du livre intitulé La Turquie en 100 questions qui a paru chez Talendier il y a 2 ans. Merci à vous trois d'être présents ce soir dans Questions du soir.
Notre proposition d'arrêter les frappes, de cesser le feu pendant au moins 30 jours reste en vigueur. Mais c'est de la part de la Russie que le monde n'entend pas de réponse. Il n'y a pas de réponse.
Nous proposons aux autorités de Kiev de reprendre les négociations qu'elles ont interrompues fin 2022. Je propose que nous commencions sans délai, dès jeudi prochain, le 15 mai, à Istanbul.
Si la Russie ne s'engage pas sur ces 30 jours de cessez-le-feu et sur ces discussions, il faut pouvoir prendre des sanctions supplémentaires qui soient beaucoup plus dur pour l'économie russe et en quelque sorte être dissuasif.
Le langage des ultimatums est inacceptable pour la Russie. Il ne convient pas. On ne peut pas parler de cette façon avec la Russie.
Nous espérons que cette occasion ne sera pas perdue.
Et le porte-parole du Kremlin a annoncé cet après-midi que la composition de la délégation russe serait annoncée lorsque Vladimir Poutine en donnerait l'ordre. Nicolas Tenzer, est-ce que, sans vous demander si vous pensez qu'il viendra, Vladimir Poutine, est-ce que vous pensez que sa présence pourrait changer la donne ?
Écoutez, je pense que sa présence pourrait peut-être changer la donne sur le court terme, c'est-à-dire sur d'éventuelles discussions pour un cessez-le-feu. Mais outre qu'elle me paraît quand même peu probable cette présence, il n'y a absolument aucune appétence de Poutine pour la paix, quelle qu'elle soit.
Présence ou non ?
Présence ou non. Je veux dire, la paix, on n'est pas dans des négociations. Il faut faire très attention. Il faut bien aussi bien distinguer, d'ailleurs, cette trêve éventuelle qui tarde à venir. Les Ukrainiens y sont prêts. Ils l'ont dit déjà le 11 mars. Donc ça fait maintenant plus de 2 mois. Ils l'ont redit encore récemment. Mais Poutine n'en veut pas. Et surtout, il ne veut pas la paix. Son objectif clair est de détruire ou de soumettre totalement l'Ukraine. Et on le voit d'ailleurs avec les massacres quotidiennement perpétrés aussi dans les zones occupées par la Russie. Massacres, donc exécutions sommaires, tortures, déportations d'enfants, ce qui est un crime de génocide en vertu de la Convention du 9 décembre 1948, viols de masse. Donc c'est ça la politique de Poutine. Elle ne va pas cesser. Et si on lui laisse, je dirais, en quelque sorte devenir le maître du jeu, eh bien ça va tout simplement continuer. Et je veux dire, cette réalité, il faut la prendre en compte et la considérer en face et pas rentrer dans une sorte de faux-semblant, même si je vois la présence du président Zelensky comme effectivement un signe tout simplement clair, c'est que les Ukrainiens, eux, bien sûr, veulent la paix. Pas à n'importe quel prix, bien sûr, mais ils veulent la paix.
Une réaction, Oksana Mitrofanova. Est-ce que, dans le fond, présence ou non, cela importe peu la présence de Poutine demain? Ce qui compte, c'est empêcher l'idée que Poutine, j'allais dire, dirige le jeu et les règles du jeu.
Il faut diviser la question d'une trêve éventuelle et de la paix durable. Parce que si qu'il s'agit de la trêve et d'un cessez-le-feu, oui, peut-être c'est possible. Mais les Ukrainiens restent assez sceptiques parce qu'on imagine facilement qu'on peut avoir une trêve ou avoir un cessez-le-feu pour, je sais pas, pour 1 mois, 2 mois et après ça recommence. Si qu'il s'agit vraiment de la paix durable, moi je reste pessimiste pour une toute simple raison parce que juste avant de venir sur le plateau, J'ai étudié le sondage qu'on a fait en Ukraine. Il s'agit de trois plans, qui sont présents, comment régler la guerre actuelle. Donc, il y a le plan de la Russie, qui est très clair, et qui commence par le postulat d'une démilitarisation de l'Ukraine. Qu'est-ce que c'est la démilitarisation? Ça signifie qu'on va diminuer par la façon considérable le nombre de militaires ukrainiens. Ensuite, c'est bien sûr la reconnaissance de l'annexion de Crimée et d'occupation des territoires, c'est-à-dire que tout le monde va reconnaître officiellement quatre régions ukrainiennes comme les régions russes. Ensuite, bien sûr, il s'agit qu'il n'a pas du tout de perspective d'adhésion dans l'OTAN. Éventuellement, Poutine n'est pas vraiment contre l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne. Et bien sûr, c'est la levée de toutes les sanctions. Donc, les réponses des Ukrainiens, 82% des Ukrainiens à qui on a posé ces questions étaient contre, 10% étaient pour quand même, et certains, ils ont hésité. Qu'est-ce que ça donne? Imaginons la démilitarisation de l'Ukraine. Il y a moins de soldats, qu'est-ce que ça donne? Mais ça donne la guerre suivante. Ensuite, imaginons qu'on reconnaît de jure ces territoires qui sont occupés. Mais moi, je trouve que c'est une trahison de la population de ces...
Une trahison pour les populations de ces territoires?
Ah, mais bien sûr. Mais ensuite, mais pensez à la population d'autres territoires. On peut poser la question légitime. Et demain, c'est nous, par exemple, Kharkiv, qui est à côté de la frontière, si Poutine recommence la guerre. Donc, on va reconnaître Kharkiv comme russe, on va reconnaître Sumy, on va reconnaître Zaporizhzhia, et après, demain, c'est Kyiv. Ensuite, il y a bien sûr le plan, on peut le définir comme le plan ukrainien et européen, qui travaille ensemble. Dans ce cas-là, il n'a pas de reconnaissance de ces territoires de jure, mais bon, de facto, peut-être, il y a une certaine reconnaissance de cette occupation, mais ça ouvre la question, et à l'avenir, on peut avoir le changement de la situation. Et ensuite, il y a aussi le plan des États-Unis. Voilà, donc les Ukrainiens ne sont pas vraiment favorables au plan des États-Unis, parce que dès qu'il s'agit de l'annexion de Crimée, les États-Unis sont prêts à accepter, c'est-à-dire de reconnaître la Crimée comme le russe. Et ensuite, l'élever des sanctions aussi.
On va revenir sur la possibilité ou non de cette paix durable. Je reste tout de même un instant sur cet événement de demain, cette rencontre entre les délégations russes et ukrainiennes. Dorothée Schmidt, pourquoi le choix de se rendre à Istanbul? Pourquoi le choix de la Turquie, au fond, pour organiser cet événement et ces négociations?
La Turquie a la confiance des deux belligérants et elle s'est positionnée depuis le tout début de la guerre comme un médiateur possible ou au moins un facilitateur possible de discussion. C'est dès le mois de mars, très peu de temps, de mars 2022, très peu de temps après le début de l'offensive russe que les Turcs ont réussi à réunir à l'époque Sergueï Lavrov et Dmytro Kouleba, donc les ministres des Affaires étrangères, dans leur grand forum diplomatique d'Antalya, en disant qu'il fallait commencer pour parler de paix. Donc en fait, la Turquie est en embuscade, je dirais, pour organiser ces pourparlers de paix depuis très longtemps. Comment est-ce qu'elle a la confiance des deux parties? Elle n'a pas appliqué les sanctions contre la Russie. Elle a une relation avec la Russie qui est une relation de compagnonnage, on pourrait dire, géopolitique. Elle s'est affrontée à la Russie sur beaucoup de terrains. Mmh. Particulièrement au Moyen-Orient, en Syrie, en Libye. Elle a des intérêts communs avec la Russie très forts en mer Noire, notamment énergétique. Elle co-gère pratiquement le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan avec la Russie. Elle a des intérêts en Asie centrale, où elle va un peu chatouiller les Russes aussi. Donc elle a, une sorte de compagnonnage géopolitique. C'est-à-dire que c'est pas une complicité, mais Erdogan et Poutine se connaissent extrêmement bien. J'ai toujours dit au début de la guerre que je pensais qu'Erdogan était le dirigeant occidental, si on considère que la Turquie, faisant partie de l'OTAN, est dans le camp occidental, qui connaissait le mieux Vladimir Poutine, qui avait le plus négocié avec lui personnellement, qui l'avait le plus rencontré, qui s'est fait avoir par Poutine aussi, dans certains contextes, en Syrie en particulier. Du côté ukrainien, on a une relation qui s'est consolidée très fortement après l'annexion de la Crimée, quand les Turcs ont compris que la Russie devenait une puissance vraiment potentiellement menaçante, y compris pour eux et pour leurs ambitions régionales. Et donc, ils ont utilisé leur relation avec l'Ukraine comme une sorte d'élément de dissuasion vis-à-vis de la Russie, ou comme une sorte d'élément tampon, je dirais presque, vis-à-vis de la Russie.
Notamment par des accords économiques et militaires,
oui,
je pense.
Oui, et alors militaires aussi, et ça c'est important, parce qu'effectivement, à partir de 2016, on a une vraie coopération militaire entre l'Ukraine et la Turquie, parce que 2016, c'est une année où la Russie et la Turquie ont été à deux doigts de l'affrontement en Syrie, où il y avait une vraie peur turque de ce que l'armée russe pouvait faire sur des terrains qui étaient proches de la Turquie. Et il y a une chose qui est très importante pour la Turquie, c'est la coopération en matière d'industrie d'armement, puisqu'ils travaillent avec les Ukrainiens à la production de ces fameux drones Bayraktar qui ont été utilisés dans la guerre en Ukraine. Et on parle depuis deux ans de l'ouverture d'une usine de Bayraktar sur le sol ukrainien.
Nicolas Tenzer, est-ce qu'il vous semble que la Turquie est le juste médiateur, le bon médiateur pour tenter justement de faire avancer ces négociations ?
Alors, indépendamment du fait que je ne suis pas du tout sûr qu'il puisse y avoir un médiateur, mais ça c'est une question de fond, dans ce cas-là, malgré tout, on peut penser que la Turquie est un État qui dispose de la légitimité nécessaire. Pour plusieurs raisons, pour les raisons que Dorothée Schmidt a d'ailleurs bien évoquées, c'est que il y a malgré tout un intérêt commun, d'abord, entre l'Ukraine et la Turquie. Effectivement, à propos notamment de la Crimée, Erdogan n'arrête pas de dire que la Crimée est ukrainienne. Et il défend aussi la minorité tatare de Crimée, persécutée, on le sait, dans des déportations de masse par Staline, et à nouveau, depuis 2014, persécutée par Poutine et les occupants russes.
Et minorité très présente en Ukraine, et notamment...
Et qui est présente, et qui fait partie de la nation ukrainienne. Cette nation, d'ailleurs, qui est une nation cosmopolite, au sens propre du terme. Vous avez donc, bien sûr, les tatars musulmans, vous avez une communauté juive extrêmement importante, vous avez l'église orthodoxe ukrainienne, vous avez des composantes d'une église romane latine, vous avez bien sûr des athées aussi, enfin je veux dire que vous avez cette fusion-là. Donc ça, c'est la Turquie est très importante là-dessus. Et elle est importante parce que il y a eu des accords militaires et assez importants dans le temps entre la Turquie et la Russie, notamment avec l'achat de missiles S-200. Aujourd'hui, Erdogan se rend bien compte que Poutine est aussi un danger. C'est aussi un danger dans la mer Noire, parce que quand même, c'est un peu une sorte de mer gardée, si j'ose dire, pour la Turquie. Il essaye de maintenir une sorte d'équilibre. Il a été extrêmement efficace aussi au début, dans, pour le coup, des accords sur la livraison de grains. Puis heureusement, les Ukrainiens ont dit, finalement, on n'a plus un accord et on va violer le blocus. Donc, vous avez cette attitude, finalement, géopolitiquement extrêmement à droite, quoi qu'on pense de la politique d'Erdogan sur le plan intérieur, qui est absolument, comme on le sait, désastreuse et attentatrice aux droits de l'homme fondamentaux, il y a cette politique extrêmement, extrêmement intelligente. Et quand même, la Turquie est un membre de l'OTAN. Donc c'est d'abord quand même un allié. Voilà, donc je pense qu'il y a cette politique-là qui est assez à droite. Mais encore une fois, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Je ne crois pas qu'il y ait une possibilité de médiation quelconque entre ces deux États.
Je reviens un instant sur ce que vous disiez, Dorothée Schmidt. Vous disiez qu'il y avait une équidistance de la Turquie du point de vue diplomatique entre l'Ukraine et la Russie. Pourtant, on peut se dire que là aussi, pour des raisons d'influence régionale, la Turquie a intérêt à ce que, au moins, la Russie ne gagne pas en Ukraine.
Oui, alors c'est vrai que moi, j'ai observé l'attitude des Turcs depuis le début du conflit et la façon dont ils percevaient les équilibres régionaux. Vous savez que le premier problème que les Turcs ont eu, c'était de bloquer le passage des navires de guerre dans le Bosphore, puisqu'ils ont recouvré dans les années 30 la souveraineté sur le point de passage entre la Méditerranée et la mer Noire. Et les Turcs ont mis une bonne semaine à décider qu'il s'agissait d'une guerre, en fait. Parce qu'ils hésitaient, effectivement, au parti à prendre, finalement, dans ce conflit. Et puis, le calcul qui a été fait, ça a été effectivement, en invoquant la logique de la Convention de Montreux, qui est donc la convention qui règle la situation dans les détroits, de dire qu'on interdisait le passage à tout navire de guerre à partir du moment où il y avait un conflit et qu'on reconnaissait qu'il y avait un conflit en Ukraine. Et depuis le début de cette guerre, je vois les Turcs parier en réalité sur un affaiblissement militaire de la Russie. C'est-à-dire qu'ils pensent que la Russie va dépenser beaucoup beaucoup de ressources militaires et ils savent que cette armée russe, elle est pour eux vraiment un... Bon, alors d'abord, il y a tout un historique, tout un imaginaire historique extrêmement fort. Il y a quand même eu 11 guerres plus les guerres du Caucase entre le 16e siècle et le 20e siècle, entre la Russie et la Turquie. Donc c'est vraiment une sorte d'adversaire historique, une puissance qui est considérée comme une puissance forcément menaçante ou en tout cas qu'il faut arriver à équilibrer, à tenir à distance. C'est pour ça que je parle de compagnonnage géopolitique et pas d'alliance, pas du tout d'alliance. Et pendant la guerre, j'ai vu les Turcs progressivement voir la marine russe se faire pilonner en mer Noire et en arriver au point de dire nous serons désormais la puissance maritime dominante en mer Noire. Nous n'avons besoin de personne. Il y a même eu des déclarations de leur amiral en chef disant à un moment de l'histoire on n'a pas besoin de l'OTAN en mer Noire, on décide tout seul, on fait ce qu'on veut et nous de toute façon on va être la force dominante en mer Noire.
Mais donc ça plaide plutôt pour un soutien objectif à l'Ukraine.
Et donc maintenant, l'inquiétude des Turcs, quand je parle du moral, disons, qui évolue en fonction de l'évolution de la guerre, c'est qu'ils voient avec beaucoup d'inquiétude une Russie qui pourrait sortir vainqueur, si ce n'est déjuré, au moins de facto. Et ils ont vu ce renforcement de l'industrie de défense russe qui se mettait en place. Et donc ça, ça les inquiète beaucoup. Ce qui explique qu'aujourd'hui, Erdogan a tout ce discours sur la contribution indispensable de la Turquie à la construction de la défense européenne. C'est que finalement, aujourd'hui, à nouveau, l'OTAN et l'éventualité d'un pilier de défense européen ou d'une défense européenne autonome, c'est quelque chose pour les Turcs, y compris stratégiquement, comme un point d'équilibre face à la Russie.
Est-ce que vous êtes d'accord, Oksana Mitrofanova, lorsque Nicolas Tenzer dit que, dans le fond, pour régler ce conflit, dans l'avancement même de ces négociations, il n'y a pas de nécessité à avoir un médiateur, et en l'occurrence, à avoir ce médiateur turc ?
Ah bah, tout à fait. Parce qu'en réalité, la guerre dépend des décisions de Poutine et du gouvernement russe. Donc du coup, quand il y a plein de personnes qui veulent se présenter comme les médiateurs, j'ai entendu récemment parler que Pape aussi, il est d'accord sur son rôle, que l'Autriche aussi, elle n'a rien encore pour recevoir la négociation. Mais ça ne dépend pas des médiateurs. Et je me rappelle aussi qu'Emmanuel Macron, au début de la guerre d'haute intensité aussi, il a voulu être médiateur, mais assez rapidement, il a compris la situation. Donc, je pense qu'il a perdu tout simplement cet espoir. Parce que ça ne dépend pas grand-chose des médiateurs. Et moi-même, quand j'ai regardé les publications en Ukraine, mais je n'ai pas trouvé de publications optimistes à propos de la réunion qui aura lieu demain.
Nicolas Tenzer, comment vous défendez-vous ce point de vue? Pas besoin de médiateur quand on voit qu'il n'y a pas eu de rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky depuis 2019. La dernière fois, c'était à Paris. C'est la seule rencontre, d'ailleurs, qui a eu lieu entre ces deux hommes. Comment peut-on faire sans médiation?
Mais le vrai sujet aujourd'hui pour l'Ukraine, et c'est encore une fois ce que j'ai constaté, j'y étais il y a une semaine, c'est gagner la guerre. Et les Ukrainiens, je peux le dire, dans leur grande majorité, sont dans cette perspective-là.
Avec, ça se joue donc sur le terrain et pas, j'allais dire, dans des hôtels
à l'étranger. Et pas, oui, c'est-à-dire qu'il y a une solution militaire. Vous savez, il y a un fameux mantra diplomatique, il y a de solutions diplomatiques à ce conflit. Non, c'est pas une résolution diplomatique ou politique, c'est une résolution concrètement militaire. Et on voit d'ailleurs sur le terrain, alors la situation est extraordinairement difficile avec des histoires que j'ai encore entendues la dernière fois en Ukraine, toutes les fois précédentes où j'y suis allé, absolument dramatique, d'une dureté insupportable quand on voit ce que fait l'armée russe. Enfin, c'est vraiment la monstruosité jour après jour. Enfin, les crimes contre l'humanité massifs. Enfin bon, ça c'est l'horreur. Mais derrière, vous avez moins de pessimisme. Parce que tout simplement, l'Ukraine aujourd'hui produit plus de 40% des armes qui sont utilisées dans la guerre contre la Russie. Et ça, c'est un progrès considérable. L'année dernière, elle a fabriqué 1,5 million de drones. 3 millions seront fabriqués cette année. Elle a lancé un programme de missiles balistiques, a annoncé d'ailleurs le président Zelensky. Et concrètement, aujourd'hui, l'armée russe n'avance pas. Alors, aujourd'hui, certes, c'est très difficile, c'est même impossible pour l'Ukraine de reprendre le terrain perdu, de reconquérir les zones. Mais ils savent très bien que, in fine, ils y parviendront. Et ils attendent bien sûr que les Européens, notamment les Américains, c'est probablement une autre histoire, on verra s'il y a un vrai changement de l'attitude de l'administration Trump, j'en doute personnellement, mais ils attendent que les Européens donnent plus. Et aujourd'hui, on a quand même quelques mouvements insuffisants de la part des Européens qui accroissent leurs dépenses militaires pour donner une partie, je dirais, de ces armes à l'Ukraine. Vous avez une partie des financements financement sur les intérêts des avoirs gelés russes qui sont donnés pour aider l'armée ukrainienne et les entreprises ukrainiennes à produire plus de matériel militaire à moindre coût que du côté européen, voilà, avec une ingéniosité technologique absolument extraordinaire. Donc c'est ça la solution. Je veux dire, il faut arrêter de se voiler la face, se dire avec le régime de Poutine, j'avais déjà écrit ça en 2016 dans un article, je dois dire, on ne négocie pas. Et puis, je veux dire, est-ce que vous imaginez, on est quand même devant un régime, il faut revenir à quelques fondamentaux. Je veux dire, c'est un régime qui a assassiné des centaines de milliers de personnes en Tchétchénie, en Syrie, en Ukraine, dans certains pays d'Afrique, en Géorgie. Donc, est-ce qu'il y a un certain moment où l'idée même de serrer la main de quelqu'un qui est quand même accusé depuis le 17 mars 2023 de crimes de guerre par la Cour pénale internationale, qui est un fugitif recherché par 145 polices du monde, ça je veux dire, c'est la réalité juridique. Est-ce qu'il y a un moment où on peut s'asseoir et on peut considérer que cet homme-là va cesser? Et est-ce que, vous voyez, admettons qu'on ait un accord de paix, est-ce que derrière, les Européens ne vont pas se dire, est-ce qu'on n'aura pas ces tendances, agitées d'ailleurs par la propagande russe, qui vont dire, ah ben, on a un accord de paix, plus besoin de se réarmer, plus besoin d'aider l'Ukraine. Je veux dire, il y a un vrai danger, je pense, dans ce récit des négociations telles qu'on l'entend parfois aujourd'hui.
Votre point de vue, Dorothée Schmidt, sur cette analyse, est-ce qu'il faut se refuser même à l'idée de négocier avec Vladimir Poutine parce que c'est un criminel de guerre et parce que, dans le fond, il y a une impossibilité fondamentale à lui faire confiance dans l'idée qu'il pourrait respecter ce qui sera le fruit d'une négociation possible?
En fait, je trouve fascinant qu'on parle de ces négociations de paix parce qu'il y a une espèce d'accélération de l'histoire qui est liée aussi au changement d'administration aux États-Unis, au fait que Donald Trump lui-même avait dit qu'il voudrait mettre fin en quelques jours à cette guerre. En réalité, ce qu'il a initié n'a pas du tout fonctionné. Et donc, d'une certaine façon, on est peut-être tous dans un faux semblant complet. C'est-à-dire que là, on est en train de s'interroger sur l'éventuelle composition de la délégation demain, avec Trump qui a dit qu'il pourrait y passer, puis finalement qu'il enverrait Marco Rubio. Effectivement, Vladimir Poutine, qui, à mon sens, n'a pas tellement même d'intérêt à venir, à partir du moment où il n'y aura pas de représentations qui seront à son niveau, qui refuse de reconnaître Vladimir Zelensky comme un dirigeant légitime, même pour l'Ukraine. Donc, en réalité, on n'est pas du tout mûr pour ces négociations de paix. Je crois que c'est ça qu'on est aussi en train de dire en ce moment.
Vous êtes d'accord avec cette idée, Oksana Mitrofanova? Est-ce que, d'abord, on n'est pas du tout mûr pour ces négociations? Et est-ce que vous ressentez vous-même un décalage, j'allais dire, entre ces discussions que l'on a, la composition des délégations russes, américaines, les défis que chacun y met ou rêve d'avoir, et dans le même temps, la réalité du terrain et du théâtre de guerre?
Il me semble que la position ukrainienne est très simple. L'Ukraine ne veut pas cette guerre. Et Zelensky, finalement, il a dit que je suis prêt à négocier et je suis prêt à voir Poutine parler de la paix, parler d'une trêve, parler de cessez-le-feu, parce qu'il faut que tout soit clair, pas uniquement pour les Ukrainiens, parce que pour nous tout est déjà clair, pas pour les Européens déjà, parce que pour beaucoup de pays, la situation est claire, mais la situation n'est pas claire pour Donald Trump. Et donc, Zelensky, il veut faire voir au président des États-Unis qui veut parler, qui veut négocier, qui veut avoir une trêve et un cessez-feu. Parce que si, dans cette situation, Poutine n'arrive pas à Istanbul, comme c'est prévu, ça signifie qu'il ne veut pas négocier et qu'il ne veut pas faire les efforts pour une trêve éventuelle. Quelle est la politique de Donald Trump? Donald Trump, il souhaite presque à n'importe quel prix avoir la fin de la guerre ou la fin des combats. Voilà, c'est sa tâche stratégique. Reconnaître la Crimée, reconnaître le territoire occupé, c'est pas le problème.
Il se moque des détails, il veut d'abord signer un deal.
L'essentiel, c'est arrêter le combat. Pour arrêter le combat, il faut voir deux parties, il faut voir la négociation. Donc, voilà la politique de Zelensky. Lui, il est d'accord parler. Mais il est d'accord parler avec, tout simplement, avec Vladimir Poutine. Pourquoi? Parce que Zelensky, il a dit très clairement, mais qui décide la situation en Russie? Bien sûr, c'est le président de la Fédération de Russie, c'est Poutine. Ici, il n'arrive pas, je ne sais pas à quelle personne Poutine pourra envoyer demain, c'est pas la peine, et il n'a pas de sens. Et éventuellement, quand même, c'est très important pour les États-Unis. Pourquoi? Quand même, l'Ukraine très dépendant des États-Unis. Je suis d'accord, bien sûr, avec Nicolas Tenzer que le point militaire est important, mais quand même, il faut parler clairement et ouvertement. Il faut dire que l'Ukraine ne peut pas survivre sans l'aide vraiment conséquente de l'Europe et des États-Unis. Parce que c'est qu'il s'agit de renseignements militaires, c'est qu'il s'agit de renseignements satellitaires. On est très dépendant des États-Unis. On connaît cette période quand les États-Unis ont arrêté. Et imaginons, je donne le scénario qui est le pire. Admettons, si les États-Unis arrêtent toute l'aide militaire à l'Ukraine. C'est possible, comme un scénario parmi beaucoup d'autres. Qu'est-ce que se passe? Mais on a déjà vu que l'Ukraine perd petit à petit. Pas parce qu'elle ne veut pas se battre. Il y a des hommes qui veulent se battre, mais se battre avec quoi? Il faut avoir l'équipement, il faut avoir le renseignement, il faut viser des HIMARS. Est-ce que l'Europe est capable de remplacer les États-Unis? Mais il y a le délai, il y a... Bien sûr, la France possède certaines capacités aussi de renseignement satellitaire et l'Europe augmente l'industrie de défense. Aussi, il y a les dernières informations à propos de César, que la France va envoyer tous les canons César qui sont prédits à 2025 en Ukraine. Mais sans cette aide qui est très importante, ce sera très dur. Sans oublier aussi les questions économiques, parce que pour survivre, il faut payer les retraites, il faut payer les salaires, il faut payer les bourses. Et l'aide vient quand même de l'Union européenne et des États-Unis pour payer tous ces, on peut dire, ces dépenses sociales. Si on arrête tout ça...
Dorothée Schmidt, je vous interroge sur la première partie de ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous croyez, vous aussi, que le premier destinataire, dans le fond, de ces négociations, c'est d'abord et avant tout le président américain Donald Trump? Dans les propos de Volodymyr Zelensky, c'est d'abord à lui et à lui seul qu'il s'adresse?
Oui, alors effectivement, c'est très important de voir à quel point l'aide américaine, bien avant l'aide européenne, est indispensable pour continuer cette guerre. Mais... ce qui nous suspend dans nos analyses, c'est qu'on a l'impression que l'administration Trump change d'avis sur beaucoup de dossiers. Il y a une espèce de phénomène d'apprentissage sur le tas, quasiment. Et là, je vous rappelle qu'en ce moment, Trump, il a au moins 3 dossiers majeurs dans les mains. Il a une négociation sur le programme nucléaire iranien, qui sont un très très gros enjeu pour lui. Il a la question de Gaza, avec là la perspective d'une offensive et d'une prise totale de Gaza par l'armée israélienne, sur laquelle il est aussi requis. Et en réalité, en ce moment, il est en tournée dans le Golfe où il ne passera pas en Israël. Et la question de tous, c'est mais pourquoi est-ce qu'il ne va pas en Israël? Bon, parce qu'il a beaucoup de business à faire avec le Golfe et que peut-être pacifier le Golfe et l'Iran, c'est un sujet très important pour lui. Et puis, il a cette paix sur lequel finalement j'ai l'impression, entre l'Ukraine et la Russie, sur lequel je crois qu'il laisse les choses se décanter. Il laisse en fait les interlocuteurs effectivement montrer par leur posture qui est prêt ou non. Et ça, je crois que c'est très vrai de dire que Volodymyr Zelensky veut démontrer entièrement sa motivation à trouver une solution. Et Vladimir Poutine, lui, veut montrer avant tout que les Européens ne peuvent pas le forcer à s'asseoir pour négocier. C'est-à-dire que le premier sujet de Poutine, là, c'est de dire mais enfin, on m'a convoqué, on me dit qu'il faut que je respecte un cessez-le-feu et maintenant on me convoque, mais qui me convoque?
Il dit même on ne parle pas comme ça. Exactement. À la Russie, Nicolas Tenzer. Dans ce cadre-là, que peuvent les Européens, ils se sont rassemblés justement, lorsque vous étiez même à Kiev dernièrement, il s'appelle les volontaires désormais, que peuvent concrètement les Européens dans ce schéma-là, dans ce cadre-là, pour soutenir l'Ukraine? Est-ce qu'ils peuvent soutenir l'Ukraine d'ailleurs sans les États-Unis?
Alors, il y a deux questions. Il y a une première question, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant? Maintenant, ils peuvent accélérer considérablement les livraisons d'armes à l'Ukraine. Au-delà du fait qu'ils doivent se réarmer eux-mêmes, les avec les Européens, parce que derrière, encore une fois, en particulier s'il n'y a pas de défaite de la Russie en Ukraine, nous savons très bien que nous sommes les prochains sur la liste, enfin nous Européens, ce ne sera pas nécessairement la France directement, mais enfin d'autres pays.
En tout cas, la menace nous concerne.
Voilà, c'est une menace directe, on le voit d'ailleurs avec des menaces dites hybrides, mais qui sont quand même potentiellement aussi des menaces mortelles, hein, il ne faut pas l'oublier. Les menaces hybrides, ce n'est pas un petit truc, hein, parce que quand vous attaquez un hôpital et que vous avez une opération en cours à corps ouvert, ben, tout simplement, patient peut mourir. Si vous désorganisez les systèmes de signalisation des chemins de fer ou la circulation routière, vous pouvez avoir des accidents mortels. Quand vous avez des incendies provoqués par les Russes, comme en Pologne, ça a été encore dit par Donald Tusk, le Premier ministre polonais. Bon, donc il y a derrière, il faut absolument se réarmer. Ça, c'est, je crois, la première chose. Deuxièmement, vous avez des actions en termes judiciaires qui sont très importantes. Les Européens vont mettre en place, vous savez, un tribunal spécial pour juger le crime d'agression, tel qu'il avait été défini à Nuremberg. En plus des 3 autres crimes perpétrés par la Russie, crimes de guerre contre l'humanité et de génocide, qui sont là de la compétence de la Cour pénale internationale. Donc il y a une distinction. Ça, c'est aussi fondamental. Et puis, encore une fois, je crois que aujourd'hui, les Européens sont quand même en mesure d'aller beaucoup plus loin. Regardez le budget militaire transféré à l'Ukraine de la part des Européens, c'est 0,1% du PIB. Est-ce que nous ne pouvons pas faire mieux? Ma réponse est quand même clairement oui. Nous pouvons faire mieux. Et quand même, vous avez un continent qui, concrètement, aujourd'hui, est beaucoup plus fort militairement que la Russie. Vous avez 500 millions d'Européens, vous avez 320 millions d'Américains, vous avez 140 millions de Russes, et qui ne viennent pas à bout de, comme le rappelait Andriy Kubilius, le commissaire européen à la défense, de 38 millions d'Ukrainiens.
Mais sur le plan militaire, Nicolas Tenzer, lorsque Emmanuel Macron déclarait le 26 février 2024 la possibilité d'envoyer des troupes françaises en Ukraine, est-ce que cela aussi, ça vous paraît crédible pour faire quoi des troupes françaises en Ukraine, et surtout, avec quel risque potentiel pour une guerre plus générale?
Alors, deux remarques. Premièrement, c'est une idée que j'avais beaucoup poussée avant, donc je suis
c'est
très content, effectivement. Voilà, je suis très content, effectivement, que le président l'ait dit le 26 février 2024. Il le dit aujourd'hui sous un format différent. Il ne s'agit pas pour la France d'aller seule. Il ne s'agit pas, soyons clairs aussi, parce que vous avez beaucoup de désinformations, notamment de l'extrême droite en France, poussées par les Russes, qui disent on va rétablir la conscription, envoyer les jeunes petits Français combattre contre les Russes. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'avoir des troupes européennes qui permettent à l'Ukraine d'être sécurisée, notamment d'ailleurs les populations civiles. Donc après, il y a des tas de formats, je ne vais pas entrer dans les détails, on n'a pas le temps, parce qu'il y a des formats très différents, troupes aux frontières, à l'intérieur de l'Ukraine, aux frontières, etc. Il y a des vrais sujets, quelle doctrine d'engagement en particulier, si ces troupes sont attaquées, ce qui était un aspect de votre question. Aujourd'hui, je pense que c'est ça le vrai enjeu, c'est de dissuader. La Russie. Nous sommes, nous Européens, une force de dissuasion. Est-ce que la Russie va attaquer des troupes européennes au sol, en Ukraine? Personnellement, je ne le crois pas. Est-ce qu'il y a un risque réel? Oui. Est-ce qu'à un certain moment, on peut gagner la guerre en ne la faisant pas? Non. Et je pense qu'on est quand même devant cette réalité d'un pays qui a déclenché une guerre totale. Et il faut jamais oublier que c'est une guerre totale, c'est pas une guerre territoriale, c'est pas une guerre conventionnelle, c'est quelque chose d'une autre nature. Alors je comprends que pour les dirigeants européens, c'est une sorte de vision d'un abîme.
La coalition des volontaires, Oksana Mitrofanova, a menacé la Russie, si la Russie n'avançait pas dans ses négociations, a menacé la Russie de sanctions importantes, d'un nouveau train de sanctions. Le ministre des Affaires étrangères français parle désormais de préparation de sanctions dites dévastatrices. Est-ce que vous ressentez le fait qu'en Ukraine, ces sanctions peuvent être attendues, et surtout que peuvent concrètement encore ces sanctions ?
D'abord, je ne crois pas du tout à l'efficacité des sanctions à court terme et à terme moyen. Peut-être un jour, à l'avenir, les sanctions peuvent jouer son rôle, mais vraiment à très long terme. Et jusqu'à ce jour, il faut tout simplement survivre physiquement. Et voilà pourquoi je pense que c'est l'option quand même militaire qui a été évoquée par Nicolas Tenzer.
En Russie, plus... pardonnez-moi, je vous coupe, mais en Russie, les sanctions ont bien eu des effets sur l'économie du pays, sur le système bancaire, financier, sur le système énergétique. Mais... alors tout cela a été contourné, mais tout de même.
C'est pas grave, je pense que vous avez oublié quand même ce qui signifie le régime autoritaire. Moi, ce que je pense essentiel, et ce que j'essaie d'expliquer à mes étudiants en France, c'est la nature du régime autoritaire. Sinon, on ne comprend pas. Je vous rappelle que dans l'Union soviétique, on a produit plein de chars, on a produit plein de missiles, mais on n'a pas fait suffisamment l'anesthésie pour soigner les dents. Donc soigner les dents, c'est une terreur. Pourquoi je donne cet exemple? Parce que quand il y a une situation très difficile dans le régime autoritaire, par la force, le gouvernement peut forcer produire plein de chars, plein de missiles, plein d'équipements militaires. Donc, imaginons, par exemple, la situation en Russie devient très, très difficile, voilà, les gens à Moscou, peut-être à Saint-Pétersbourg, ne sont pas contents, mais le régime autoritaire est capable d'écraser tout ça, est capable de forcer, ou par exemple, l'exemple de la Corée du Nord, pourquoi je parle de ça? C'est le régime totalitaire. Il faut comprendre la nature de ce régime. Il faut comprendre que le peuple russe est très résistante aussi. Et donc, moi, je pense que la Russie, qui a déjà bien lancé l'économie de guerre, qui augmente aussi la production de poudre pour l'équipement militaire, vraiment peut durer vraiment longtemps. Bien sûr, il faut lancer ces sanctions, il faut étudier, mais il ne faut pas oublier quand même que la Russie aussi a des alliés qui sont très efficaces. Il y a la Chine, il y a la Corée du Nord, il y a plein d'autres pays qui sont capables aider la Russie de tourner ces sanctions et de faire durer ces régimes autoritaires. Donc d'abord, moi, je pense que quand même, il faut penser à cette option militaire, à la coalition de volontaires, mais bien sûr, militaire prépare des modèles, des scénarios différents. Mais on ne va pas avouer ces modèles. Parce qu'il s'agit de la guerre, ce n'est pas quand même le cinéma, il faut garder un secret. Mais moi, je pense que c'est plus important, c'est maintenant c'est les consultations, par exemple, entre les militaires, les consultations techniques entre les militaires ukrainiens et les militaires en européenne pour comprendre ce qu'on peut faire. Mais on peut faire plein de choses. Même la France a fait certaines choses strictement techniques. Par exemple, on a les bombes françaises qui sont très efficaces, AACM. Maintenant, on peut lancer des MiG et des sous-ukrainiens. Voilà, c'est des décisions techniques. Les missiles aussi, Scalp, qui s'est retrouvé dans le stock, qui était ancien. On a réussi de les moderniser pour envoyer en Ukraine. Donc, il y a les solutions et strictement techniques dans le domaine militaire. Comment on peut augmenter cette aide, voilà.
Dorothée Schmidt, je reviens sur les sanctions. Elles sont pour vous également absolument inefficaces parce que le régime russe est autoritaire. Il est impossible de faire pression sur ce régime à travers sa population ?
Je crois qu'effectivement, la seule chose qui puisse faire peur à Poutine, c'est la possibilité d'un affrontement militaire dans lequel il n'aurait pas le dessus. Là-dessus, je crois que je rejoins complètement mes camarades de discussion. Sur les sanctions, la Russie a une élasticité aux sanctions qui est énorme parce que c'est un très grand pays qui est finalement assez peu peuplé, qui a beaucoup de ressources et qui a une culture de la pénurie, comme on vient de le dire, qui est extrêmement fort, qui est héritée du régime soviétique. Et finalement, c'est un peu une sorte de continuité de cette pénurie qui s'organise à travers cette guerre. Donc je ne crois pas que ces sanctions soient si efficaces. Moi, j'aurais donné l'exemple de Cuba sous sanctions américaines. Bon, le régime cubain, il existe toujours, avec aussi, au contraire, une résistance nationale, avec vraiment un sentiment identitaire de résistance qui a été complètement renforcé par tout cet arsenal. Alors, vous voyez la taille des États-Unis par rapport à Cuba, qui est juste à côté. Donc, bon, si on n'a pas réussi, ça veut dire que c'est peu efficace. Je pense à l'Iran également, qui est un très grand pays aussi, et qui a aussi une forme de capacité de résistance nationale ou populaire à ces sanctions, même si à long terme, oui, ça érode la crédibilité du régime. Mais là, on a besoin de choses à court terme, parce que ce qu'on veut, c'est finir cette guerre maintenant pour éviter qu'elle fasse encore beaucoup plus de morts. Bon, ensuite, évidemment, sur les sanctions, il y a tous les mécanismes d'évasion. Donc ça fait partie, et la Turquie est un des sujets là-dessus, bien entendu, puisqu'elle participe à la relabellisation de beaucoup de matériel qui quitte la Russie ou qui va en Russie. Et c'est la raison pour laquelle la Turquie n'applique pas ses sanctions. C'est qu'elle a du commerce à faire, en fait, sur le dos de cette guerre. Et c'est un peu le problème aussi des guerres qui durent. C'est qu'on a toute une économie parallèle qui s'organise autour de la guerre. Et d'une certaine façon, le retour de l'industrie de l'armement comme le fleuron des industries dans tous les pays dont on parle, c'est aussi ça. C'est aussi une retombée de la guerre. Ce n'est pas normal que l'industrie d'un pays soit uniquement construite autour d'une industrie d'armement.
Nicolas Tenzer, d'un mot, que veut la Russie selon vous ? C'est poursuivre la guerre, continuer d'avancer jusqu'à Kiev ou c'est tout autre chose, une autre stratégie ?
Je pense que c'est d'abord une stratégie d'annihilation et de destruction. Mais vraiment, au sens propre du terme. C'est-à-dire que s'il y avait eu un projet de grande Russie, Make Russia Great Again, qu'est-ce qu'aurait fait Poutine ? Il aurait tendu la main à l'OTAN, il aurait saisi la main que l'Union européenne tendait depuis longtemps dans le cadre de ce qu'on appelait la Russia First Policy de l'Union européenne, il aurait accepté la coopération et la Russie serait aujourd'hui un pays grand, un pays riche,
mais c'est pas
avec
que...
un potentiel scientifique.
C'est pas comme ça qu'un empire grandit, on
voilà.
dirait.
Mais voilà, et sauf que c'est la réalité, c'est que c'est un pays effectivement failli. Je veux dire, quand vous voyez l'économie russe, quand vous voyez la société russe, quand vous voyez, moi j'ai enseigné pendant 2 ans en Russie, entre 2006 et 2008, où j'allais une semaine tous les 3 mois et je voyais tout le doyen de l'université, tous les professeurs pour lesquels je faisais des séminaires, qui depuis ce moment-là déjà, plus de 15 ans, se sont exilés. Et c'était les meilleurs.
Merci
et c'est
beaucoup.
Ça la réalité.
Merci beaucoup à tous les trois de cette discussion sur les négociations qui devraient avoir lieu demain entre Russie et Ukraine à Istanbul. Nicolas Tenzer, Oksana Mitrofanova et Dorothée Schmidt.